Donc, si vous étiez là dimanche dernier, lors du culte unique à cause des vacances, vous vous souvenez sans doute non seulement de la prédication, mais aussi, entre autres, que nous avons entonné à un moment donné un chant pendant le culte. Ce chant, c'était « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ ». La suite du chant disait « Au monde, je dis non, et joyeux, je prends ma croix. » Et puis la dernière strophe, « Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi, j'irai. » Si mes amis s'en vont, qu'importe. Finalement, ces paroles reflètent une certaine réalité quotidienne pour les chrétiens au Luxembourg. Pendant les vacances du carnaval, vous avez peut-être vu dans les médias, sur RTL, dans la vente, peut-être ailleurs encore, quelques articles présentant les résultats d'une étude qui a été menée par le Statec concernant la place de la foi, de la religion au sein de la société luxembourgeoise. Alors, je pense que ces statistiques n'ont fait que confirmer ce que nous voyons tous dans la société tous les jours, c'est-à-dire que depuis quelques décennies, la place de la foi, la place de la religion a été en déclin. Ce n'est pas nouveau, c'est progressif, mais effectivement, ce que le Statec a souligné dans les derniers chiffres, c'est que ce dernier décennie en particulier a vu, on peut dire, un effondrement de la place de la foi dans la vie quotidienne au Luxembourg. Si on passe le premier illustration, bon, toute proportion gardée, il faut voir, ben, ils ont voulu faire le plus impressionnant possible, puisque finalement, ben, 48 c'est tout petit et 52 c'est très grand. Mais donc, ils ont juste occulté toute la partie qui était avant les 46%. Mais quand même, ils ont surtout souligné le fait que pour la première fois donc dans les statistiques, ceux qui disent appartenir à un culte religieux, à une religion, un groupe religieux au Luxembourg est passé en dessous de la moitié de la population. Alors si on passe au suivant, donc il y a quelques années avant, donc en 2008, l'étude précédente, c'était encore 3/4 de la population qui disait appartenir à un groupe religieux, ce qui veut dire que dans l'espace de 12 ans, il y a plus qu'un quart de nos concitoyens qui ont abandonné toute appartenance, tout lien avec la religion, avec les choses de la foi. Et donc, je ne sais pas trop quelle est la notion qu'ont certaines personnes par rapport à leur appartenance à une religion, puisque si on regarde 2008, on va revenir sur l'autre. Si on regarde en 2008, il y avait 75% de la population qui disait appartenir à une religion, mais seulement 55% qui disaient qu'ils étaient religieux. Alors, je ne sais pas ce que faisait l'autre 20%, comment ils se définissaient, mais bon, cela quand même a baissé dans les 12 années, donc à 48% qui disent appartenir à une religion et 37% qui se disent religieux. Et puis donc, le nombre de personnes qui se définit comme étant sans religion est passé à 44%, donc presque la moitié de la population qui disent qu'ils sont sans religion, et presque une personne sur cinq qui se dit clairement aujourd'hui comme étant athée. Donc, effectivement, c'est sur ces statistiques-là que le Statec a tiré l'attention et avait fondé leur étude, et aussi sur lesquelles les journalistes ont bien tiré l'attention dans leur titre. Mais même ces chiffres-là cachent une certaine réalité. Je disais, je ne sais pas ce que le 20% faisait en se disant appartenir à une religion sans être religieux, Mais quand on regarde la réalité qui est cachée derrière ces chiffres, on se rend compte que même ces chiffres-là sont plutôt positifs et optimistes par rapport à la réalité du vécu. Si on passe au suivant. Parce que donc, parmi ces gens donc, qui se disent religieux, ça veut dire qu'il y en a qui, tout en se disant religieux ou appartenant à un culte, ben, il y en a qui ne vont jamais, qui ne pratiquent jamais leur culte. Et quand on regarde, ben, on est à moins de 10% de la population qui irait à l'église ou à un lieu de culte au moins une fois par mois. Donc, déjà une fois par mois, c'est pas beaucoup, mais ça ne couvre que 10% de la population. Alors, ces réalités-là peuvent avoir beaucoup de causes, ils peuvent avoir beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ont fait ce choix, ont pris ces positions. Mais j'étais particulièrement frappé par la cause qui avait été soulignée dans l'étude par le Statec et qui leur semblait suffisamment importante d'y avoir consacré un paragraphe entier, si on passe au suivant. Pour eux, ils ont dit qu'il y a une relation claire entre le niveau de vie, le niveau de salaire, le niveau de richesse et le détachement des choses de la foi et des choses de la religion. Ils ont sorti ces graphiques pour souligner donc la relation entre les niveaux de richesse et le peu d'intérêt pour la foi. Donc là, vous voyez le Luxembourg qui est tout en tête du revenu, en termes de revenus au niveau de l'Europe, mais qui du coup se trouve vraiment tout en bas au niveau d'intérêt pour la foi, intérêt pour la religion. Et donc, leur conclusion, c'était plus on est riche, moins on s'intéresse pour les choses de Dieu. Alors, je ne sais pas quels agents du Statec ont sorti cette étude, ont travaillé là-dessus, mais je trouvais intéressant de voir, je ne sais pas si eux, ils étaient au courant que dans leur analyse, ils étaient tout à fait d'accord avec les paroles de Jésus. Puisque finalement, qu'est-ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 19, versets 23 et 24 ? Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Donc, finalement, les agents du Statec se sont penchés sur toutes leurs statistiques pour arriver à la même conclusion que Jésus avait dit il y a 2000 ans. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, rien de spectaculaire et d'innovant dans leur graphique indiquant que plus on était riche, moins on s'intéressait aux choses de Dieu. Jésus l'avait bien souligné en parlant avec ses disciples. Et quand on regarde Matthieu chapitre 19, donc le contexte de ces remarques de Jésus, c'était la venue du jeune homme riche auprès de Jésus qui voulait suivre Jésus, qui voulait s'engager avec lui jusqu'à ce que Jésus lui dise que ça impliquerait aussi que Jésus soit le maître de ses ressources et de ses richesses. Et dans le verset 22, donc, c'est marqué qu'après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas avoir comme maître à la fois Jésus et ses richesses. Il ne pouvait pas servir les deux et donc il a opté pour ses richesses. Et donc il est parti triste en reconnaissant qu'il devait renoncer à Jésus. Quand on pense à ces statistiques qui étaient présentées, on est obligé de se demander bah, combien le jeune homme riche est-ce qu'il peut avoir au Luxembourg, qui font le même choix, qui seraient peut-être prêts à suivre un Dieu qui serait d'accord avec eux et leurs priorités, mais qui sont obligés de dire, ben, s'il faut choisir entre les deux, je ne peux pas permettre à Dieu de dicter ma position vis-à-vis des richesses, et donc qui s'en vont tout tristes, préférant choisir cela au Seigneur. Quand on regarde ces choses-là et quand on réfléchit à ces personnes, c'est une réalité, me semble-t-il, qui devrait nous mettre à genoux. Alors je vous rassure, non pas dans le sens où on est tellement découragé, qu'on est épuisé et on se trouve, l'Église se trouve à genoux, mais bien au contraire, une réalité qui devrait nous mettre à genoux en implorant au Seigneur de bénir ce pays, de bénir nos concitoyens, de se révéler et de transformer les cœurs de la société autour de nous. Parce que la bonne nouvelle de Matthieu chapitre 19, ce passage, c'est que Jésus ne termine pas sa discussion avec les disciples sur le fait que simplement il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais finalement, c'est Jésus qui justement pose ces paroles que nous avons chantées tout à l'heure, car les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Donc, ces statistiques, ces analyses du statut est tout à fait juste, car d'accord avec les paroles de Jésus, mais Jésus dit en même temps, ne soyons pas abattus, ne soyons pas découragés, car même ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc même si tout cela est vrai, même si plus on est riche, moins on s'intéresse aux choses de la foi, même si donc le Luxembourg se trouve du coup en haut d'un des axes et en bas de l'autre, tout est possible au Seigneur et donc nous devrions nous tourner vers lui en prière pour lui demander de faire grâce autour de nous. Cette situation devrait donc nous inspirer à prier davantage pour ce pays, pour nos concitoyens. Elle devrait aussi nous rappeler l'importance de bien poser nos priorités et nous faire le choix de suivre le Seigneur, quel que soit le prix. Matthieu 6, verset 24, nous le dit bien, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon étant donc l'idole de la richesse. Tout cela étant vrai, donc, la conclusion de nos concitoyens en ce qui concerne la religion n'est pas très surprenant. Donc, trois quarts de la population au Luxembourg trouve que la religion n'est pas importante. C'est une chose sans importance. Et même, si on regarde le suivant, même en ce qui concerne Dieu, au-delà de la religion, mais Dieu lui-même n'a pas beaucoup d'importance. Donc, c'était une question où il fallait définir l'importance de Dieu entre 1 et 10, et où donc une vaste majorité trouve qu'il n'a pas d'importance. Donc, peu surprenant quand on regarde ça. Et donc, selon les agents du Statec, donc pour presque 2/3 de la population autour de nous, Dieu n'a aucune importance dans la vie. de tous les jours. Alors, ce qui est intéressant, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que après, en regardant d'autres questions, ils arrivent quand même à une conclusion que je trouve fantastique. Conclusion du Statek, Dieu n'est pas mort. Je suis sûr que le Seigneur est très content de savoir que le Statek a pu conclure qu'il n'est pas mort.
Comme s'il pouvait mourir.
Ils sont arrivés à cette conclusion magnifique en se concentrant sur une autre réalité que eux ils ont présentée comme étant le seul lueur d'espoir pour Dieu au Luxembourg, qui en fait n'est nullement un espoir. C'est que ils disent oui, les gens rejettent la religion, ils rejettent une structure donc où il leur est dit ce qu'il faut croire. Mais du coup, ils se construisent eux-mêmes leur propre spiritualité et pratiquent ce qu'ils ont envie de faire avec un Dieu qu'ils ont envie de se créer eux-mêmes. Selon la Bible, cela c'est un faux espoir pour qui que ce soit. Surtout faux espoir pour ceux qui le pratiquent. Actes chapitre 4, versets 11 et 12 nous dit « Jésus est la pierre rejeté par vous qui bâtissez. » De telles attitudes n'ont rien de nouveau. Déjà, à l'époque des Juifs du Nouveau Testament, les apôtres leur disaient « Cette pierre que vous avez rejetée, que vous dites n'a aucune importance dans votre vie, est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ça ne sert strictement à rien de se construire sa propre spiritualité. Car au dernier jour, notre propre spiritualité ne nous sauvera pas. Nous ne pourrons pas se faire jugé par notre propre Dieu créé par nous-mêmes en disant « Bon, ben moi, je préfère être jugé par un tel, par ce Dieu que je me suis créé. » Ça ne marche pas ainsi. C'est pour cela que dans Romains chapitre 10, l'apôtre Paul dit « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, et le résident luxembourgeois non plus, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Notre rôle aussi en tant qu'Église de Jésus-Christ au Luxembourg, c'est d'être de ceux qui sont, dont les pieds sont beaux parce que nous apportons la parole du Seigneur dans cette société qui en a tellement besoin, qu'il a abandonné, qui ne veut pas en entendre parler, qui préfère créer leur propre, mais nous devons être des témoins de la vérité. Car, dit-il, s'ils n'entendent pas, ils ne vont pas croire en lui. S'ils ne croient pas en lui, ils ne vont pas faire appel à lui pour être sauvés. Et s'ils ne font pas appel à Jésus pour être sauvés, ils vont être perdus, quelle que soit leur volonté propre. À nous donc d'apporter cette parole. Alors, lorsque Paul dit « Comment croiront-ils et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche ?» Alors, vous n'êtes pas tous obligés de vous mettre au coin de la rue et avec un mégaphone et vous mettre à prêcher comme si vous s'appelez Billy Graham. D'ailleurs, je vous le déconseille, sauf si vous avez envie de démarrer un ministère dans la prison, que c'est ce que vous risquez. Mais nous pouvons, à notre niveau, avec les gens autour de nous, prêcher dans le sens de partager cette parole du Seigneur. D'ailleurs, vous trouverez au fond de la salle, on a reçu encore cette semaine de nouveaux traités, de nouvelles brochures que nous pouvons utiliser comme support, comme appui pour partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ avec nos concitoyens. Servez-vous si vous en voulez, mais c'est notre rôle puisque la Bible est très claire. Qu'il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a de l'espoir en aucun autre. Alors, 2 Timothée chapitre 3, verset 14, Paul dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, tu connais les Écritures, tu connais les textes de la Bible » qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre que celui qui s'est révélé. Peut-être ce n'est plus au goût du jour de laisser quelqu'un d'autre nous dire ce que nous devons croire, de nous imposer sa vision des choses. Mais tant pis, Dieu l'a fait. Et nous devons plier le genou devant lui et bâtir notre vie sur ce que lui, il a dit. Puisque finalement, en réfléchissant à cette étude, je me suis dit, bon, ben, c'est intéressant de savoir ce que le Luxembourg pense de Dieu, mais c'est tellement plus important de savoir ce que Dieu pense du Luxembourg. Puisqu'au dernier jour, il n'y a que cette opinion-là qui comptera, qui aura un effet. D'ailleurs, cette semaine encore, j'écoutais une prédication où le prédicateur disait, ben, finalement, l'important, ce n'est pas votre opinion de Dieu, c'est son opinion de vous. C'est ce que Dieu dira de vous qui a de l'importance. C'est pour cela que, finalement, toutes ces statistiques, toute cette réalité qui est représentée par ces statistiques ne devrait pas nous troubler dans notre foi. Comme disait Paul à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, ces choses qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Cela ne doit pas nous troubler dans notre foi parce que ces statistiques ne font que confirmer ce que la Bible nous dit, mais devraient au contraire simplement nous encourager à être toujours plus fidèles à la mission que Dieu nous a confiée en tant que ses enfants, en tant que son Église. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. » On peut même le réduire. Vous êtes le sel du Grand-Duché de Luxembourg. Mais si le sel perd sa saveur, si nous, on ne fait que imiter tous les gens autour de nous, si nous, nous tombons dans le piège de nous aussi leur ressembler, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. À nous, donc, de mettre en avant ce que Dieu a fait en nous. Et pas simplement en étant des gens énervants qui écrasent les gens avec nos paroles, mais qui ne correspondent pas à notre vie. Car Jésus continue, « que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous devons témoigner de nos paroles, oui, mais nous devons aussi être des témoins par notre vie qui est consacrée au Seigneur, qui est au reflet de ce que Dieu demande de nous. Nous devons demander au Seigneur de nous transformer à son image, plier le genou devant lui pour qu'on soit transformé à son image, pour que cette lumière de ce qu'est le royaume de Dieu brille à travers nous pour cette société tellement dans les ténèbres. Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, le Grand-Duché trouve sa place aussi dans ces « faites de toutes les nations », les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, heureusement, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc certes, statistiquement, on va peut-être se dire, ben, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais celui qui a dit aux hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, tout est possible, est avec nous tous les jours. Et nous pouvons compter sur son aide. Donc finalement, sans doute d'un certain côté, l'opinion de Dieu, de tous ces gens qui disent que Dieu n'a aucune importance dans la société, c'est qu'importe de votre avis. Je pense qu'il y a même deux aspects concrets de la réaction de Dieu devant la réalité, bon, lui qui n'avait pas besoin d'attendre la sortie d'un rapport du Statec pour se rendre compte de la situation, puisqu'il voit le cœur de chaque être humain. Sur base du psaume 2, je pense que d'un côté, le Seigneur voit ses statistiques et il rit. Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Et ces vaines pensées parmi les peuples. 58-60% de la population qui disent que Dieu n'a aucune importance. Je dis, mais quelle vaine pensée parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, disant, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Nous ne voulons plus être enfermés sous cette religion. Quelle est la réaction de Dieu? Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Et puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. On peut avoir l'opinion qu'on veut de Dieu. Dieu dit, mais moi, je fais ce que je veux quand même, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Quand on regarde également le psaume 8, on se dit, mais quel orgueil de simple créature de dire que Dieu est sans importance. Psaume 8, verset 5, dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Finalement, on est tombé sur la tête. Ce n'est pas à nous de dire Dieu est sans importance. Devant ça, Dieu rit et dit, on va voir qui est important entre moi et toi. Donc d'un côté, le Seigneur rit devant ces réalités-là. Mais je pense que d'un autre côté, le Seigneur pleure devant une telle réalité. Luc chapitre 19, lorsque Jésus s'approchait de la ville de Jérusalem, en la voyant, il pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » La réalité du Grand-Duché est pareille. La Bible nous dit, « C'est aujourd'hui le jour du salut. » Le Seigneur doit regarder ces réalités décrites dans ce rapport et dire, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. En voyant la réalité des cœurs des habitants de Jérusalem, Jésus pleura. Je pense que sa réaction est la même devant la société qui nous entoure. Car pour le cœur de Dieu, avoir raison, pouvoir dire, bah, pensez ce que vous voulez, moi je vais faire ce que moi je veux, n'est pas une consolation devant la perte éternelle de chaque âme qui décide de dire dans son orgueil, Dieu est sans importance. Autant il rit devant la stupidité de l'orgueil de l'homme, autant il pleure devant les conséquences de cette stupidité. En Ézéchiel 18, verset 23, Dieu dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? N'est-ce pas plutôt qu'il change de conduite et qu'il vive? » Et en 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, Pierre dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse du retour de Jésus, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Le Père, ce Dieu que tant de nos concitoyens considèrent comme ayant aucune importance dans la vie, a donné son Fils unique pour que nous ne mourrons pas, mais pour que nous ayons cette possibilité d'être sauvés de notre orgueil, de notre stupidité, de notre péché. Jésus a donné sa vie pour que Dieu puisse avoir une bonne opinion de nous, puisse au dernier jour nous considérer comme ses enfants d'adoption et non pas comme ses ennemis, pour qu'il puisse nous faire grâce, nous justifier, nous sanctifier devant le trône de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de nous. Ne soyons pas troublés donc par ces conclusions, par cette réalité qui nous entoure, mais croyons en lui. Heureux celui qui croit en lui. Et puis, une fois que cela est assuré, et je dirais, ce matin, si tu n'as pas pris cette décision-là, si tu n'as pas accepté la révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour avoir une bonne opinion de toi, comme tout à l'heure on a souligné l'importance de réagir face à ce que dit le Seigneur, directement, je dirais encore là, tout de suite aujourd'hui, prends cette décision de plier le genou, de sortir de l'orgueil humain qui se dit que je suis le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour moi, et d'accepter que c'est à Dieu de nous dicter comment vivre, comment être sauvé. accepté de plier le genou devant lui encore aujourd'hui. Et une fois que cela est fait, réagissons selon le cœur de Dieu devant de telles situations, devant de telles réalités. Certes, d'un côté, nous pouvons rester incrédules devant la stupidité de l'orgueil de l'être humain qui ose dire « Dieu n'a aucune importance dans ma vie ». Un peu comme l'homme riche qui disait « Ah, j'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi je m'inquiéterais pour l'avenir ?» Et Dieu, qui regardant cela, lui disait « Mais imbécile, tu te rends même pas compte que cette nuit, ton âme te sera redemandée. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as à faire de toutes tes richesses sur lesquelles tu comptes ?» Mais soyons en même temps émus de compassion comme Jésus. Émus de compassion pour tous ces brebis qui sont perdues sans berger. Et réagissons en conduisant au moins quelques-uns au bon berger.